Dans une minute, il sera 19h30. Votre grand journal du soir se poursuit avec notre page culture sur Europe 1, Philippe Andel.
La demi-heure culturelle de ce 18-20 avec Jean-Philippe Ballas, bonsoir.
Bonsoir Philippe, bonsoir.
Jean-Philippe en vieux laboureur, Nicolas Caro, bonsoir.
Bonsoir.
Nicolas Caro en rat bibliothèque, voire en détective. Et Diane Chénouda, bonsoir Diane.
Bonsoir Philippe, bonsoir à tous.
Diane Chénouda en tutu. Et notre invitée, Julie Ferrier, bonsoir Julie.
Bonsoir Philippe.
Comédienne, humoriste, vous revenez sur scène avec un spectacle que je vais vous laisser définir. Ça s'appelle « À ma place, vous feriez quoi ?» Ferrier, c'est votre nom. C'est au théâtre de l'Atelier du mercredi au samedi à 21h. Avant de commencer de raconter le spectacle, je veux dire qu'il démarre avant le spectacle. Vous êtes sur la place Charles Dullin, devant le théâtre, dans la file d'attente, et vous distribuez, je vous ai vu mercredi, vous distribuiez des éventails. C'est quoi l'idée? Vous les vendez d'abord?
Déjà, je les achète dans le quartier du 13e, arrondissement de Paris. Et puis après, je les revends. Enfin, je fais une marge d'un euro.
Ouais.
Mais c'est surtout parce que c'est la canicule et que, hélas, notre théâtre, je ne sais pas si je dois le dire, mais comme ça, on ne fera pas de publicité mensongère, n'est pas équipé de climatisation ni même de ventilation.
Il n'est pas climatisé, mais il est éventé. Mais c'est quoi l'idée de vous sur la place Charles Dullin en train de faire le show? Pourquoi le show démarre avant le show?
Parce que j'ai toujours fait ça. Enfin, quand je me fais mes spectacles, si tu me fais jouer un Tchekhov, je ferai comme tu me demandes. Mais moi, je pars toujours, j'appelle ça le pré-show. Hein, ouais. C'est très simple. Pré-show, donc c'est un peu pré-show, chaud, échauffement.
Ouais.
C'est-à-dire que je pars du principe où je me suis rendu compte en faisant beaucoup de théâtre de rue que d'aller chercher les gens dans la rue, et surtout pour les amener dans l'écran après, dans le lieu où tu vas opérer, en vérité, c'est un échauffement.
Ouais.
Et ça échauffe l'acteur, celui qui fait la proposition, et celui qui vient la recevoir.
Ouais.
Et du coup, c'est un partage qui commence déjà dans la rue, ils font là. Et puis j'ai un personnage qui s'y prête très bien, qui est une sorte de petite hôtesse d'accueil.
Ouais.
Voilà, avec il y a un service de sécurité faux.
Ouais.
Voilà.
Et puis ça donne le ton parce que comme c'est la canicule, les éventails, elle dit Julie Ferrier dit les vieux d'abord.
Ah oui, mais ça c'est un vrai souci. Hein. Pour pas qu'ils fassent la queue, parce qu'on a de la chance d'avoir quelques personnes qui viennent nous voir, donc il y a une sacrée queue, comme on dit, sur la place.
Ouais.
Et l'idée c'est, oui, les personnes âgées et les handicapés sont prioritaires. Alors ça fait rire, mais c'est bienveillant, c'est pas malveillant, c'est l'inverse.
Ah bah tiens, puisque vous en parlez, tout est libre, y compris le placement dans la salle, pour quelle raison?
Alors ça, il faudrait demander au directeur du théâtre.
C'est pas votre idée?
Non, pas du tout.
C'est une très belle idée, je trouve.
Eh ben écoutez, moi je trouve ça pas mal, ouais, c'est bien.
C'est comme à Bercy, chez les groupes de jeunes. Tu te mets devant et t'es dans la fosse.
Exactement.
Le même prix pour tout le monde.
Exactement, c'est le même prix pour tout le monde. Vous connaissez le prix?
34 euros.
34 euros. Alors certains peuvent être contents, parce que pour 34 euros, ils sont devant, et d'autres peuvent peut-être faire la...
Oh non, non. Mais écoutez, vous savez, c'est un théâtre de proximité dans le sens où on est très proche. Vous étiez au balcon, je crois, quand vous êtes venu.
Ouais.
On est quand même, on a l'impression d'être avec nous sur scène, presque.
C'est une petite bonbonnière. Alors... Maintenant, j'avais rien lu sur le spectacle avant, donc je ne savais absolument pas du tout à quoi m'en tenir, à quoi m'attendre.
C'est bien ça.
Et pour le théâtre de l'Atelier, c'est pas une pièce, c'est pas un one-man show, c'est un cabaret. Expliquez ce que c'est.
Le cabaret, c'est le principe de mettre à la suite plein de numéros venant de disciplines différentes, comme par exemple le chant, la danse. La musique, le dressage, et c'est tout. En fait, c'est tout ce que j'ai un peu traversé pendant ces 30 ans de métier. J'ai fait du cirque, j'ai fait de la danse, de la comédie musicale. Donc c'est une sorte de, pour moi, j'aurais pu appeler ça pot pourri, mais bon, il y a pourri dans pot pourri. on pourrait dire. Oui, ça ressemble à rien dans le côté, mais j'aime pas non plus parce que ça ressemble à rien d'autre. Tant mieux, mais en même temps, écoute, moi j'ai l'impression de revisiter le cabaret. Tout simplement, sans prétention. On revisite le genre.
Alors, j'endosse ce compliment, ça ne ressemble à rien. J'ai trouvé un adjectif qui vous va très très bien dans le Figaro, c'est inétiquetable. On ne peut pas y coller une étiquette sur ce spectacle. Ça démarre avec la metteur en scène. Ça, vous la connaissez déjà depuis longtemps, Martha.
Ah, moi, la connais,
C'est votre premier personnage.
Je la connais, c'est moi qui l'ai créée il y a 19 ans.
Qu'est-ce qu'elle est? Elle est prof d'art plastique. C'est une sorte de Lagerfeld au féminin, mixé avec Luchini, qui parle de la mise en scène, des coulures. Vous pouvez la faire 30 secondes pour qu'on la situe.
Bien sûr, si tu veux, ce qui est bien quand tu crées un personnage, c'est de pouvoir te dire qui tu vas, les faire. Ce que j'aime me dire aussi quand je le joue, c'est on ne sait pas pourquoi. C'est comme ça. On ne sait pas d'où elle vient. On ne sait pas où elle va aller. On ne sait pas quel métier elle va faire vraiment. Et c'est ça qui est aussi intéressant pour moi, c'est de faire un personnage qui n'a, puisqu'elle, pour moi, elle incarne la liberté, de quel pays elle vient, est-ce qu'elle sera là encore demain, et surtout quel quel est son métier. Moi, j'adore chez mes personnages, quand je les crée, qu'ils puissent avoir des fonctions différentes. C'est-à-dire un métier pour être grand reporter, ou il pourrait être styliste, voilà.
Ou prof de dessin.
Jardinière.
Dès les premières minutes, vous expliquez qu'il ne faut pas chercher à comprendre quoi que ce soit, il n'y a rien à comprendre. C'est fait exprès ou au contraire, il y a un truc à comprendre, mais justement, vous jouez à faire croire qu'il n'y a rien à comprendre.
Il y a un peu de ça, mais c'est surtout qu'il n'y a pas de fil conducteur. Après, il y a des gens qui y voient un fil conducteur, plus, alors ça, c'est M. Bertrand Guillard qui m'a dit ça, et quelqu'un d'autre aussi de la presse. Eux, ils y voyaient quelque chose par rapport à la satire de la société actuelle. Voilà, une sorte de fil conducteur.
Ah, il y a un peu de ça dans un sketch avec un
Alors, c'est pas un sketch, et lui, il parlait justement de tout le long du spectacle.
Ah non, moi, je vous parle du numéro que j'ai vu absolument incroyable. Vous faites Ben et Carby, oui, qui sont Ken et Barbie, j'ai réfléchi longtemps, sont deux robots humanoïdes, vous dansez avec une danse robotique, mais extrêmement réussie. J'en ai vu des gens danser en imitant le robot. C'est la première fois que je vois ça aussi bien réussi. On dirait presque de la 3D, pardon de ce compliment. Et là, il y a une réflexion sur l'avenir, sur ce qu'on va devenir.
Ah bah oui, le transhumanisme, oui, c'est aux portes. On est aux portes de ça. Puis nous, les Français, mais alors là, on pourrait faire une émission là-dessus, Philippe.
Ça a l'air de vous inquiéter.
Bah bien sûr, moi, je suis sur le sujet depuis plus de 19 ans, donc je sais...
Depuis plus de 19 ?
Mes premiers écrits étaient de l'an 2000.
Ouais.
Ouais, sur le transhumanisme. Alors, mais ça va nous arriver, mais ça c'est une émission entière, mais une émission de 3 heures. Et puis ça serait intéressant de faire venir Luc Ferry, parce qu'il en parle très bien.
Vous lancez également dans des théories très complexes et très fumeuses, et à la fin vous dites des spectateurs, merde, je les ai tous perdus.
Non, mais je le pense pas du tout.
Ah bon, vous les avez gardés, parce que moi j'avais rien compris à ce moment-là. Alors, il y a plein de choses aussi extrêmement joyeuses. Vous incarnez la cagole qui fait du frisbee en patin roulette, tout en anglais. Vous parlez très bien anglais. Où est-ce que vous avez écrit ce sketch? Et c'est les seuls mots d'anglais que vous connaissez.
Ah, that's it. C'est les seuls mots que je connais. C'est marrant de penser ça.
C'était une question.
Écoute, je l'ai créé aux États-Unis, ce personnage.
Ouais.
Quand j'ai joué à New York, et j'avais envie de faire ce personnage qui est en fait un personnage très connu, c'est l'équivalent de notre cagole du sud de la France. Elle est sur roller là-bas chez eux et elle se balade à Venice Beach ou tu vois, des trucs comme ça.
Je vois très bien.
Donc, c'est un personnage, j'adore faire ça, des personnages deux en un. Et dans mon prochain spectacle que j'espère un jour pouvoir faire, parce qu'il est un peu onéreux, il y a un personnage que je vais incarner aussi, qui est un personnage deux en un. C'est deux personnages dans le même. C'est ça en fait, tu vois, puisque je commence en américaine et quand mon mec arrive. Qu'est-ce que tu fais? Je m'amuse. Et là, d'un seul coup, je deviens, je crois pas,
la cagole du sud.
Mais qui est l'équivalence de la cagole américaine?
Parce que le type est très jaloux. Parce qu'il faut dire, c'est trois en un. Parce que ça peut pas être joué par n'importe qui. Parce que, pardon de dire ça, faut avoir un corps de rêve pour jouer ça.
Tu parles pour moi?
Bien sûr.
Ah oui, peut-être.
Et en plus, modeste. Comment vous les inventez, vos personnages? Vous les inventez ou vous les avez croisés un jour, vous avez croisé cette fille et vous avez dit tiens, je vais la refaire.
Mais en fait, la créativité et la création, c'est un mélange toujours de vécu, d'observation énormément. Et puis après, il y a de l'inconscient, il y a des fantasmes, il y a des rêves. Et puis, il y a du conscient, il y a des choses qu'on veut dire. Et puis, des fois, je vais prendre un mélange de Philippe Vandel et puis j'ai oublié son prénom. Et
Nicolas.
Et puis, je vais les mélanger, puis ça, on va en faire un.
Ouh là là.
Martha, c'est un mélange d'un guide égyptien et d'une créatrice de mode.
Cette personne, elle s'appelle Julie Ferrier et elle a un mélange d'elle-même. Je crois que j'ai jamais rien connu de plus puissant comme mélange. A tout de suite sur Europe 1. Suite de la demi-heure culturelle avec Jean-Philippe Ballas, Nicolas Caro, Diane Chénouda et notre invitée Julie Ferrier, comédienne, humoriste. On peut la voir tous les soirs en fait, du mercredi au samedi à 21h sur la scène du théâtre de l'Atelier. Le titre « À ma place, vous feriez quoi ?» Feriez, c'est un calembour, un jeu de mots sur son nom de famille. Et c'est une sorte de cabaret indescriptible. Il y a parfois des numéros dans lesquels vous n'êtes pas, d'ailleurs. Oui. Parce qu'on ne l'a pas dit, vous n'êtes pas toute seule sur scène.
Oui.
Il y a trois gars qui sont là avec vous. Et je vais juste citer un exemple. Il y a un type qui est là et qui chante et qui fait une reprise de Purple Rain. Sauf que c'est en français, ça s'appelle Pluie Violette. Et c'est un numéro incroyable.
Merci, c'est Covarea en fait, qui interprète cette chanson. J'ai eu l'idée, et c'est tout simple, c'était il y a 2 ans quand Sprint s'est décédé.
Ouais.
Et moi, j'ai grandi avec lui. Donc... ça a été, c'est ce que je vous dis, c'est ce que je vous disais tout à l'heure sur la créativité, c'est la création.
Ouais.
C'est un hommage en fait. C'était évident que j'y allais. Et puis après, Kova a travaillé sur l'adaptation et ils ont fait l'enregistrement musical chez mon cousin Guillaume Farlet.
Ouais.
Donc on fait ça en famille.
Pluie Violette, c'est la traduction de Purple Rain texto ou est-ce que vous avez inventé des paroles?
En fait, quand tu adaptes l'anglais, n'importe quelle langue d'ailleurs, tu essayes de trouver des phrases idiomatiques, des choses qui se... Et puis tu manies la... Ce qui est très dur en plus de chanter en français en vérité. des choses anglophones comme ça, de funk ou de...
Alors sur scène, on a du clown, de la danse, du cirque, du one-man show, de la chanson. Il y a un budget perruque, non? J'ai l'impression que personne n'a quasiment ses vrais cheveux, ça vous fait marrer.
Bah oui, c'est moi le budget perruque.
C'est comment ça, c'est vous le budget perruque?
Là en fait, je suis passionnée de costumes, donc chez moi j'ai un vestiaire pour cette femme et j'habite dans une maison, je vous rassure.
Ouais.
Et les perruques, c'est pareil, je dois avoir une cinquantaine. Donc je les ai prêtées, on va dire, je les ai prêtées au spectacle et donc à mes comparses, à mes...
Mais vous les achetez?
Mes compagnons.
Vous les achetez ou c'est vous qui les faites, les perruques?
Par exemple, je vais dans un pays et puis je passe devant une boutique, je vais en prendre une ou deux comme ça, mais j'ai pas encore le personnage. Et puis des fois, c'est l'inverse. Tiens, Martha, je veux changer sa perruque. Alors je vais. Et j'ai commencé ça il y a déjà 25 ans. Donc voilà, j'ai une cinquantaine de perruques.
Mais vous êtes fan de perruques au point d'en mettre dans la vraie vie ou simplement
non,
quand
non,
vous
merci.
Jouez à la comédie?
Non, non, mais non, dans merci. La vraie vie, je ne me déguise pas.
D'accord. Vous êtes la seule femme sur scène. Autour de vous, il y a trois hommes. Ceci dit, très souvent eux-mêmes habillés en femmes, perruqués, travestis, même avec la même robe que vous. Est-ce qu'il y a une volonté d'être gay-friendly LGBT ou est-ce qu'au contraire, ou plutôt pas au contraire, mais est-ce que c'est là la tradition du cabaret?
C'est là la tradition du cabaret et surtout, j'ai poussé le curseur et vous le savez, puisque vous avez vu le spectacle, il se transforme en femme et moi je vais me transformer en homme.
Mais
au
racontez
final.
Pas la fin.
Je m'en fous, on s'en fout de savoir. je pense, j'ai l'impression que tant qu'on ne dit pas ce que c'est,
ah oui.
Si vous me demandez voilà, la formule de se dire tiens, ils se travestissent en femme, et oui, mais moi je vais jusqu'à me travestir en homme.
Vous aimez bien les déchiens? Vous
j'adore, aimiez... j'adore, il y a Bruno Locher qui est venu voir le spectacle deux fois déjà.
Je veux dire pourquoi je pense à ça, parce que les déchiens, ils ont commencé chez Jérôme Deschamps à imiter les chiens, et il y a un final où vous faites les poules, et je me suis dit c'est un hommage aux déchiens mais avec des poules.
Non, c'est plus un hommage à Jacques Lecoq, parce que j'étais dans son école pendant
ouais.
deux ans.
Et c'est un jeu de mots ou vous avez appris à faire la poule?
Non, on fait les animaux, on fait même l'œuf poilé, voilà, l'œuf poilé. Ah oui, oui, oui.
Comment ça, on fait l'œuf poilé? Ça
bah,
peut se faire à la radio.
Venez faire un stage avec moi, j'en donne un là en juillet.
Ça peut se faire à la radio, l'œuf poilé ou pas? C'est du son ou c'est du visuel?
C'est visuel.
Bon,
c'est le corps en fait.
Il y a une tombola.
Oui.
Je le dis pour les gens qui viennent.
Oui.
On peut gagner un lot.
Ah non, plusieurs lots.
Ouais.
Bah oui.
Mais le plus beau lot, on peut dire ce que c'est?
Non.
J'aurais bien aimé que vous le disiez.
Non.
Mais le gars, il part avec ou pas?
Bah non. Et tout ça, c'est du jeu. Hein. On joue la comédie,
c'est vrai
hein, Philippe.
Moi, je me demandais. Et je vais vous dire.
Bah, vous imaginez.
Est-ce que non, la
mais vous
première
chez moi, c'est comme ça? Mais bah, pas possible. C'est beaucoup trop fatigant.
Vous voulez savoir ce que je pense de vous? Je pense que vous êtes complètement folle dans votre tête.
Ah,
voilà ce que je pense
l'idée.
De vous. Je pense ça de vous.
Bah, super. Bah, ça, je le prends pas comme un compliment.
Ah non, au contraire. Si on me disait, cite-moi le nom d'un type, une personne chiante et normale, le dernier nom qui me vient, c'est le vôtre.
Ouais. Parce que pour vous, c'est chiant d'être normal?
Ah oui, c'est tellement ennuyeux. Ah bah les gens qui sont orthodoxes, qui sont tout le temps les skis dans les rails, on s'ennuie au bout de deux heures.
D'accord, mais
même
vous ne me connaissez pas dans la vie.
Non, mais j'imagine en vous voyant que vous êtes complètement zinzin.
Bah pas du tout.
Vous êtes complètement ordonné.
Mais en fait, la scène, c'est un peu le principe. Moi, j'ai eu la chance de commencer très jeune. C'est un moyen d'expression. Donc, c'est
ouais.
fait pour, justement, se dépasser. Et donc, moi, c'est comme ça que je l'utilise.
Ouais.
Et puis, comme je viens de la danse, bon, ben, ça m'a donné un bon bagage, on va dire, de rigueur et de travail, ouais. de notion de... Mais c'est du boulot, en fait,
non,
tout
mais
ça,
vous m'avez
d'être
eu, en fait,
comme ça.
Je vais vous dire la vérité. Moi, quasiment tous mes copains, ils ont 70 perruques chez eux. Vraiment tous.
Mais oui, mais tant que tu as des perruques, si tu veux que tu les utilises en spectacle et que tu les mets sur la tête des partenaires pour qu'ils puissent faire des différents personnages. Parce que c'est ça aussi qu'on pourrait dire, c'est que dans le même spectacle, on est à peu près 4 sur scène et qu'on joue chacun 6 ou 7 personnages différents.
Alors on va parler maintenant de musique. Vous êtes fan de musique, c'est même pas la peine que je pose la question. L'un des plus grands festivals de France et même d'Europe, c'est les Vieilles Charrues. Ils ont 3 semaines du 18 au 21 juillet prochain à Carhaix et dans le Finistère. Bonsoir Jean-Philippe Ballas.
Bonsoir.
Alors, les têtes d'affiche, je vous laisse les dire.
Christina and the Queens, Iggy Pop, Jeanne Haddad, Booba, Jamel Debbouze, TFN. Vous avez compris, c'est quand même très 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 éclectique tout ça. Hein.
Et on est très contents parce que cette année encore, Europe 1 est partenaire des Vieilles
ouais.
Charrues. Mais je vais le dire, on en aurait parlé sans ça.
C'est vrai.
On connaît bien le festival, vous connaissez bien le festival de l'intérieur, c'est une très belle histoire, mais vous me disiez tout à l'heure que c'est une histoire assez improbable. Pourquoi? Dans quelle mesure?
Bah, improbable, d'abord la géographie, les amis. Carhaix, Finistère, 7000 habitants environ, on va dire un hôtel et demi, ça c'est pour l'infrastructure. Je ne suis pas en train de faire le snobinard
ah ouais.
de la capitale, hein, mais bon, quand vous voulez faire venir une star internationale en France, vous lui dites Paris, ok, vous lui dites Festival de Cannes, ça marche aussi. Carhaix, c'est un peu plus chaud quand même, parce que la star, vous pouvez lui expliquer qu'on est à une heure et demie de Saint-Brieuc, de Brest, de Rennes, de Lorient, qu'il y a le train, qu'il y a l'avion. Vous pouvez lui montrer sur la carte. Je suis pas sûr quand même que ça lui donne franchement envie de venir. Et pourtant, au bout du compte, bah Bob Dylan, il est venu aux Vieilles Charrues. James Brown, il est venu aux Vieilles Charrues. Sting, Depeche Mode. Et cette année, on a quand même le très grand, je sais que vous l'aimez, Philippe, Nile Rodgers. Oh,
Vous l'avez déjà vu en live, Nile Rodgers ?
Non, jamais.
Je crois que c'est un des plus grands concerts que j'ai vu de ma vie, au point que je suis retourné le voir un autre jour à un an d'intervalle. Il va jouer devant combien de personnes, Nile Rodgers ? Nile Rodgers, on va le dire, c'est le créateur et le fondateur de Chic.
De Chic, du groupe Chic. Alors, c'est pas compliqué, vous avez 4 jours de festival, il y a 4 scènes qui se relaient, et en moyenne, on a 70 000 spectateurs par jour. Wow. Je vous rappelle, un carré, c'est 7 000 habitants à l'année. 70 000 personnes, c'est l'équivalent d'un stade de France qui débarque comme ça dans les champs. Alors, on imagine évidemment toute la machinerie. On se dit qu'il y a une grosse organisation derrière. Là aussi, c'est assez improbable parce que les Vieilles Charrues, les amis, c'est une association loi 1901. Oui, c'est une association à but non lucratif. C'est comme ça depuis le début. Ça n'a pas changé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de boîte de production. Il n'y a pas de co-actionnaire derrière. Il y a beaucoup de bénévoles. Il y a 7000 bénévoles. Il y a notamment les habitants de Carré. Alors, ils se répartissent les rôles. Il y en a qui s'occupent de la bière. Il y en a qui s'occupent du camping. Tout ça, tout le monde met la main à la pâte. Et je vous garantis, c'est ça que j'aime bien aux Vieilles Charrues. Je vous garantis que personne n'a pris la grosse tête au fil des années. C'est même étonnant de voir à quel point, quand on a des grosses stars comme Dépêche Mode qui débarquent, à quel point les gens sont cool. On est limite ambiance concert MJC, je vous promets.
Mais les Dépêche Mode, ils logent pas au camping. Où est-ce qu'ils les logent ?
C'est toute l'infrastructure. C'est-à-dire que les stars, elles débarquent en avion ou en train. Il y a un chauffeur qui vient les chercher. Il y a une heure de route. Ils montent sur scène, ils font le concert et repartent. Voilà.
D'accord.
Ça se passe comme ça souvent. J'ai vu Springsteen notamment faire ça il y a quelques années. Et cette année, vous avez notamment, on l'a dit tout à l'heure, un monstre sacré qu'il faut absolument voir sur scène une fois dans sa vie. C'est Iggy Pop.
Iggy Pop dans Passenger, c'est exactement ça.
Ouais.
C'est le passager. Alors Iggy Pop, Christine and the Queen, Nile Rodgers, on a dit éclectique, ça part vraiment dans tous les sens.
Absolument, d'ailleurs c'est voulu, hein. C'est vraiment l'esprit des Vieilles Charrues. On a des anciens, on a des nouveaux et puis on a surtout des familles. On a plein de familles parmi les spectateurs, c'est ça qui est très chouette à voir. On a un vrai mélange de générations parce qu'on va voir les artistes des enfants et puis les artistes de papa-maman. On a juste un exemple, le même jour cette année aux Vieilles Charrues, vous aurez Clara Luciani, ça fait partie des grandes révélations de année. Et puis vous aurez Tears for Fears.
J'adore. Les Vieilles Charrues, donc du 18 au 21 juillet, Europe 1 partenaire, c'est complet ?
Bonne question. Il reste des places. J'ai appelé l'organisation tout à l'heure. Il reste quelques places, pas beaucoup, mais il en reste. 44€, je vous donne le prix quand même, parce que pour toute une journée de concert avec 4 scènes, 44€, c'est vraiment pas beaucoup. Et puis, alors si vous permettez, je vous glisse un autre festival, ouais. Philippe, parce que ça se passe à Paris cette fois, au mois de juillet également, à la Philharmonie. C'est le Days Off. Alors là, cette fois, c'est plus ambiance électro, mais je vous dis ça parce que il y a un autre monument de la musique, il y a Kraftwerk, les Allemands de Kraftwerk.
Mon groupe préféré, ils font 2 soirs.
11, 12 et 13 juillet.
3 soirs.
Vous avez votre place, j'imagine.
J'ai ma place déjà. Je vais même aller les voir, ils m'ont invité, je vais les voir aussi à Luxembourg.
Ah bah, c'est comme Nile Rodgers, ça se voit au moins une fois dans sa vie.
Toute petite info, il reste des places pour le 3e jour.
Ça, je connais pas.
Kraftwerk, c'est le groupe qui a inventé la techno. C'est le plus grand groupe électronique du monde. Mmh. C'est l'idole de gens comme Daft Punk.
D'accord, je comprends.
Julie Ferrier avec nous sur Europe 1. À tout de suite.
On va plus faire un hommage à Philippe Zdar.
Exactement, qui était le créateur de
Cassius et J'ai dansé pour eux.
19h49, votre grand journal du soir touche à sa fin. On retrouve tout de suite Philippe Vandel.
Dernière partie de cette demi-heure culturelle avec Julie Ferrier, comédienne, humoriste. Rebonsoir Julie, pour qui nous prendra en cours de route.
Bonsoir.
Tous les soirs au Théâtre de l'Atelier, du mercredi au samedi à 21h. À ma place, vous feriez quoi ? À ma bonne place, j'écouterai Nicolas Caro qui va me parler de littérature. Cette semaine, Nicolas, vous avez choisi un bon vieux polar américain à l'ancienne, mais qui vient de sortir.
Ouais, et ça s'appelle Inconnu 89 chez Rivage Noir. C'est sorti en 77, mais ça sort en français chez Rivage Noir. Le roman est signé Elmore Lennard, un maître du genre. C'est lui qui a écrit Ponche créole, adapté par Tarantino sous le titre Jackie Brown.
Waouh, magnifique.
3h10 pour Yuma, qui est devenu au cinéma encore un classique du western. Bon, bref, c'est un génie.
Et là, on est dans quelle ambiance? L'ambiance Jackie Brown ou l'ambiance western?
Alors, c'est plutôt urbain moderne, plutôt Jackie Brown, ambiance flic en jean délavé, blouson et Magnum 357. L'histoire se passe à Détroit. Le héros s'appelle Jack Ryan. Il est huissier. Enfin, son job consiste surtout à intimider les types qui ne payent pas ce qu'ils doivent. Un jour, une de ses connaissances, un malfrat, un voyou, lui demande s'il peut retrouver quelqu'un pour lui, un certain Robert Leary. Jack hésite un peu. Il sait que ce ne sera pas pour faire un cadeau à ce Robert, que tout ça risque de mal finir comme d'habitude, mais il accepte quand même parce que c'est pas mal payé et Jack se met à la recherche de ce Robert Leary. Bien entendu, ce ne sera pas simple. On suit Ryan, Jack Ryan dans ses aventures, mais ce qui compte, c'est l'ambiance, c'est le style d'Elmore Leonard.
Alors ça donne quoi ?
C'est écrit dans un langage très parlé, très fluide. Je vous lis un extrait. L'ami de Ryan s'appelait Dick Speed. Il avait fait visiter le tribunal Frank Murphy à Ryan. Il lui avait montré tout ce qui se passait dans les coulisses et il lui avait parlé des huissiers qui livraient les documents officiels pour le tribunal. On pouvait se faire pas mal de fric si on était prêt à passer ses journées au volant de sa voiture. À entendre Dick Speed, c'était pas un boulot trop difficile.
On dirait une voix off de film.
Mais c'est ça, on est dans l'ambiance justement des Jackie Brown et autres films noirs avec une forte dose d'humour même qui désamorce la violence, bien présente aussi la violence. Surtout Elmore Leonard pratique l'art du suspense et des histoires à tiroir. Tout est à la fois alambiqué et parfaitement clair en même temps. Il a l'art de la punchline aussi. C'est quand, comme quand Ryan se retrouve dans un bar, je vous lis encore. La fille avec les cheveux blonds filasses qui lui tombaient sur les épaules et les perles et le pull à col roulé et le Levi's et le verre à eau plein de vin de table devant elle sur le bar lui demanda « T'aimes le sexe ?» Ryan hésita. « Ouais, bien sûr. Et t'aimes les voyages ?» demanda la fille. « Bah ouais, j'aime bien. Alors va te faire foutre et loin. » Il a été publié en 77, mais il n'a pas pris une seule ride.
Inconnu 89 d'Elmore Leonard chez Rivage. Merci beaucoup Nicolas. Diane Chénouda, je me tourne vers vous maintenant. Vous allez nous parler de danse ce soir et vous nous emmenez à l'Opéra de Paris avec trois créations à l'affiche, pas moins. D'abord Carmen.
Oui, alors vraiment, Philippe, c'est du caviar ce programme, hein, consacré à un génie de la danse. Je vous fais découvrir le chorégraphe suédois Mats Ek, qui fait son comeback à plus de 70 ans. Il revient spécialement pour la troupe de l'Opéra de Paris, il revisite les classiques, vous savez. Alors là, avec cette Carmen qui a été créée dans les années 90, mais qui entre au répertoire de l'opéra, là, aujourd'hui. Donc c'est puissant, avec une Carmen rouge vif, cigare aux lèvres, jambes écartées. Ah, femme oui. Libérée qui défie les hommes, oui, elle est moderne, elle est... Voilà, c'est Carmen, hein, formidablement jouée par la danseuse étoile Amandine Albisson.
Cette Carmen, elle est passionnée, elle est fière, elle est libre, c'est Carmen.
Et oui, c'est Carmen, d'ailleurs, elle ne joue pas, j'ai presque envie de dire, cette danseuse, elle est Carmen, cette Carmen intense aux cheveux noirs, qui danse seule, sensuelle au milieu des hommes. Dans un jeu d'ombre et de lumière, c'est une Carmen qui claque avec des robes en lamées de couleurs. Et puis la danse, elle aussi, hein, elle claque stupéfiante de beauté, tout en rupture entre l'éclatement, vous voyez, et puis la retenue tout à coup, le corps replié sur lui-même. Une danse qui sollicite beaucoup les danseurs, pourtant aguerris hein, forcément de l'Opéra de Paris.
L'investissement physique est énorme. Il est de 300% à chaque pas, c'est que des mouvements à l'extrême. C'est des grandes extensions, des grands pliés, donc ça fait très mal aux cuisses. Et c'est vrai que les premières semaines où on répète, on a du mal à descendre les escaliers ou même on a du mal à s'asseoir tellement on a des grosses courbatures et que ça fait mal.
Mais dans Moudiane, c'est la Carmen de Bizet.
Oui, qui a été revisitée par ce chorégraphe, voyez.
Voilà. Alors on change complètement de registre. Après Carmen, succède un pas de deux avec Aurélie Dupont.
Oui, alors c'est la directrice de la danse hein, elle-même qui danse là pour notre plus grand bonheur, ce pas de deux, spécialement créé par notre génie suédois, Mats Ek. Duo sensible, fascinant vraiment sur la vie de couple, ses élans, ses ennuis.
Super.
Alors d'ailleurs, elle danse avec une table, Aurélie Dupont. Ah. Ouais. Oui, oui, ils sont presque trois, vous voyez, c'est un trio. Aurélie Dupont et puis le danseur étoile Stéphane Bullion qui, vraiment, Philippe, est exceptionnel dans cette partition de subtilité, d'intensité, magnifique aussi, de légèreté. Et voilà, c'est vraiment magnifique ce duo.
Alors là, c'est encore plus connu que Carmen, c'est le Boléro de Ravel, évidemment.
Bien sûr, alors là, c'est vraiment le bouquet final, le feu d'artifice de cette soirée, avec un Boléro décoiffant et son crescendo intense. Alors, qui n'égale peut-être pas hein, le Boléro de Béjart, qui lui est un sommet de la danse, hein, que vous connaissez.
Je l'avais vu au Grand Échiquier quand j'étais petit.
Ah, et alors vous avez été quand même stupéfait, non ?
Bah évidemment.
Oui, mais justement, là, le chorégraphe suédois invente autre chose. On n'a plus les danseurs en cercle, non, là, ils dansent en chassé-croisé. Enfin voilà, c'est une danse électrique hypnotique, là, comme pour Béjart. Mais voilà, c'est différent.
Merci beaucoup, Diane Chenouda. Je le rappelle, le Boléro, Carmen et un très beau pas de deux. Trois ballets à voir le même soir à l'Opéra de Paris. Oui. Ça durera jusqu'au 14 juillet.
Oui, absolument, c'est une très belle soirée.
Julie Ferrier, vous avez commencé votre carrière artistique par la danse. Danseuse professionnelle pendant 10 ans, c'est ça ?
Oui, un peu plus.
Qu'est-ce qui vous en reste ?
De très bons souvenirs, peut-être les meilleurs. Parce que c'était le tout début, j'étais toute jeune et puis je dansais comme si c'était une religion presque.
Moi je veux vous dire ce qui vous en reste quand on vous voit sur scène, on a l'impression que parfois vous dansez, même quand vous vous déplacez, vous ne marchez pas comme les gens qui marchent.
Oui, c'est le but, c'est du travail.
Merci beaucoup Julie Ferrier d'avoir été avec nous. Je le rappelle, à votre place, vous feriez quoi ? C'est au Théâtre de l'Atelier du mercredi au samedi à 21h. Avant qu'on se quitte tous, un mot pour ceux qui ont été là toute l'année mais qui ne sont pas avec nous à l'instant. Un mot pour Vanessa Zah qui est en repérage et que vous retrouverez tous les samedis matins à 7h45 et 9h45 dans la matinale week-end de François Geffrier. Un immense merci également à Mathieu Charrier, le cinéma, Thierry Geffrotin, la musique, la BD qui nous ont accompagnés toute l'année. Merci Julie, merci Nicolas.
De rien.
Bonsoir, bonsoir Diane, bonsoir Jean-Philippe.
Bonsoir.